Henriette Martinez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente du parc naturel régional des Baronnies Provençales. Garde-Colombes fait partie de ce parc, un parc qui compte plus de 200 espèces d'animaux protégés, 2000 espèces végétales. Quelle est un petit peu la philosophie du parc naturel régional des Baronnies Provençales?
Alors tout d'abord, le parc naturel régional des Baronnies Provençales s'étend sur un territoire très vaste, entre la partie sud des Hautes-Alpes, le Buëch globalement, et la Drôme, la partie Drôme provençale. Donc nous sommes sur deux départements, sur deux régions, avec près d'une centaine de communes. Et c'est un territoire exceptionnel, parce qu'un territoire à protéger, donc dans sa diversité de sa flore, de sa faune, de son patrimoine, de sa nature, de ses activités de pleine nature et de tout ce qui fonde finalement la charte fondatrice de notre parc, qui met en commun des valeurs et qui met en commun la préservation d'un territoire, non pas sa stérilisation, mais sa préservation et le développement des activités qui sont liées à tout ce qui est le patrimoine naturel et bâti. À cet égard, Garde-Colombes possède un patrimoine très intéressant parce qu'elle possède des éléments de patrimoine tout à fait remarquables. Je pense en particulier, bien sûr, à l'église de l'ancien village de Lagrand, qui est une église classée. Donc, c'est le patrimoine bâti. Le parc accorde une attention particulière au patrimoine historique et au village perché en particulier. Nous sommes tout à fait dans les thématiques du parc.
Oui, est-ce que justement Garde-Colombes fait partie de ces espaces patrimoniaux prioritaires au sein du parc?
Oui, dans le sens où si Garde-Colombes souhaitait entreprendre des travaux, par exemple, de réhabilitation dans le vieux village, Garde-Colombes serait prioritaire dans le cadre des politiques conduites sur les villages perchés en partenariat avec le Conseil régional PACA. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un projet particulier, mais Garde-Colombes fait partie, avec le vieux village de Lagrand, des paysages et du patrimoine emblématique du parc des Baronnies sur le plan historique. Ensuite, il y a sur le plan naturel le plan d'eau du Rioux. Comme nous sommes dans le cadre du développement des activités de pleine nature, que ce plan d'eau est un plan d'eau qui est ouvert au public avec la gratuité de son accès, et il y a des aménagements à faire. Et le paysagiste du parc a travaillé déjà avec le maire de Garde-Colombes sur un projet qui pourrait se développer autour du lac pour améliorer encore les conditions d'accueil des touristes, qui sont déjà très bonnes, parce que des travaux ont déjà été faits par les municipalités précédentes d'Aiguian et de Saint-Genis. Mais voilà, des projets peuvent être encore développés dans le cadre d'un partenariat avec le parc. Je rappelle néanmoins que le parc n'a pas vocation à financer des projets.
Il y a une centaine de communes là au sein du parc, dont Garde-Colombes. Comment est-ce que vous travaillez au quotidien avec elles? C'est vraiment en les aidant à monter des dossiers, justement, ou en parlant de leurs particularités?
Alors, il y a plusieurs façons de travailler. Il y a d'abord le lien que l'on crée avec l'ensemble des communes et qui est un lien d'information, de conseil. Je pense par exemple à la signalétique routière, à la signalétique d'entrée de village. Ça, c'est un travail qui se fait avec l'ensemble des communes à l'échelle du territoire. Si on travaille sur le plan climat, comme on va commencer à le faire, on va travailler avec l'ensemble des communes. On offre, je dirais, des possibilités aux communes dans différents domaines, de conseils sur les énergies renouvelables, sur la protection de la flore, de la faune, enfin. Et ensuite, les communes ont la capacité, dans le libre arbitre qui est le leur, de nous contacter pour nous dire, bien, telle thématique nous intéresse, nous voulons travailler avec telle thématique sur le parc.
Est-ce que le parc est plutôt récent? Est-ce que justement on arrive de plus en plus à imposer cette marque du parc naturel régional des Baronnies Provençales et à ce qu'elle soit reconnue aussi au niveau touristique tout simplement?
Vous savez, nous avons connu des soubresauts avec ce parc, puisque lors de sa création, nous avons eu quand même un recours en Conseil d'État des opposants au parc. Et nous avions un certain nombre de communes réfractaires qui n'avaient pas voulu délibérer pour adhérer au parc, puisque c'est une démarche individuelle des communes. Aujourd'hui, nous avons Nous avons une vingtaine de communes qui nous ont rejoints, qui étaient restées volontairement en dehors du parc et qui nous ont rejoints petit à petit, d'abord en devenant communes associées, c'était un premier pas, et qui ensuite sont rentrées dans le parc, ont délibéré pour être membres du parc. Donc ça veut dire qu'en très peu de temps, en 3 ans, le parc a marqué son territoire, a montré ce qu'il apporte aux communes. Et le meilleur exemple, c'est que parfois des communes qui sont hors parc, délibérément hors parc, nous sollicitent en disant « mais pourquoi cette action ne se fait pas chez moi ?» En attendant, vous ne pouvez pas être dedans et dehors. Cette action, par exemple, de l'éducation au territoire, qui se fait dans les écoles volontaires du territoire du parc auprès des enfants, et qui sont des actions très intéressantes. Des communes nous sollicitent en disant « mais pourquoi vous ne faites pas l'éducation au territoire dans mes écoles ?» On ne fait pas l'éducation au territoire dans votre école, ou on ne réalise pas telle action dans vos forêts ou sur vos sentiers de randonnée, simplement parce que vous êtes hors du parc. Et je pense qu'un certain nombre de communes l'ont compris et nous rejoignent maintenant, ce qui est la démonstration que le parc sert à quelque chose. Nous sommes sollicités par des agriculteurs qui, au départ, étaient contre le parc et qui viennent maintenant nous solliciter sur des problématiques telles que le loup, telles que les castors, par exemple, et qui ont besoin de l'arbitrage du parc.
Comment est-ce que vous intervenez justement dans des cas comme ça, par exemple ?
Alors, par exemple, sur le loup, nous avons, avec nos faibles moyens, mais construit néanmoins un prototype de cabane pastorale mise à disposition des bergers. Nous n'en avons qu'une, malheureusement. Elle est très demandée, une cabane pastorale mobile qui ressemble à une espèce de roulotte, vous voyez, d'autrefois, mais qui est très bien équipée et que l'on prête à des éleveurs et à des bergers. C'est un prototype destiné, comme beaucoup de choses que nous faisons dans le parc, à être une expérimentation qui sert de modèle pour d'autres actions. Nous avons sur les castors mis en place une médiation avec l'État, puisque la destruction des barrages de castors, notamment sur l'Ouvèze, est interdite, mais que ça crée de véritables problèmes pour les agriculteurs. Et donc nous avons fait une médiation pour obtenir l'autorisation de détruire certains barrages, etc. Donc quand le parc est médiateur, on est facilitateur. Que le parc apporte une expertise. Nous aidons les agriculteurs à remplir des dossiers sur des aides agricoles particulières. Nous soutenons les productions agricoles. Enfin, il y a plein d'actions très concrètes qui sont faites. Et bien sûr, en matière de tourisme, nous intervenons d'une façon assez forte avec des guides touristiques, avec une carte touristique du parc, avec un guide de rando à l'échelle du parc qui est paru cette année. Donc voilà, nous essayons vraiment de créer du lien sur ce territoire avec ses points communs et avec ses particularités qui font la richesse du territoire.
Dernière question pour cette année 2018 et pour les années qui viennent. Comment est-ce que vous projetez justement ? C'est une véritable continuité là de ce que vous nous avez expliqué ?
Oui, nous sommes dans la continuité tout en accélérant le mouvement. Nous continuons à marquer notre territoire avec les panneaux d'entrée de ville. Bientôt vont fleurir également des totems et vont fleurir des relais d'information touristiques dans les principales communes. Donc oui, le parc continue à marquer son territoire et continue à approfondir les actions qu'il mène avec les communes adhérentes au parc et toutes les communes qui ont des projets ont besoin du soutien du parc. Et puis le parc est en train d'éditer par exemple un guide pour les élus, un guide pour le grand public. Mais comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le parc est jeune, il n'est plus le dernier, il n'est plus le 51e et dernier créé, puisque le parc de la Sainte-Baume vient d'être labellisé en décembre dernier par le gouvernement. Donc nous sommes l'avant-dernier maintenant, donc nous ne sommes plus le plus jeune, mais cela signifie que peu à peu nous acquérons une expérience et une implantation sur le terrain que désormais plus personne ne nous conteste et dont au contraire, tout le monde reconnaît ce qu'elle apporte au territoire en termes de valorisation, en développant une activité locale. Et puis, je voudrais juste dire que la devise des parcs au plan national, c'est « une autre vie s'invente ici » et que nous avons à cœur chaque jour d'inventer une autre vie sur notre territoire.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Henriette Martinez. Merci.
Merci à vous.